La guerre de 1812, en fait, le Canada a dû se défendre contre les visées expansionnistes des Américains. C'est un conflit qui a été extrêmement marquant dans notre identité canadienne, ou à tout le moins, si on croit les historiens, à l'heure d'aujourd'hui, et qu'on fait un retour en arrière, on voit bien sûr des liens avec qui nous sommes en tant que Canadiens aujourd'hui. Ça va être célébré en grande pompe pour le bicentenaire l'an prochain. Et on va remettre tout ça en contexte avec l'historien et professeur à l'Université de Moncton, Gregory Kennedy, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Le contexte, tout d'abord, de la guerre de 1812. Pourquoi ça a éclaté, ce conflit-là?
Je pense qu'il y a plusieurs causes de la guerre de 1812. Et la plupart viennent des questions aux États-Unis. C'est pendant la période des guerres napoléoniennes.
Oui.
Donc, on sait très bien que la Grande-Bretagne était en guerre avec la France et sous beaucoup de pression. Alors, il y avait un blocus économique. Il y avait des tentatives de la Marine royale de faire la conscription des marines, par exemple. Alors, des tentatives de bloquer ou d'intimider le commerce des autres nations à aider Napoléon et vice-versa.
Oui.
Ça, c'est les causes internationales. Mais en même temps, il y a des causes très importantes régionales. Donc, les États-Unis, pendant cette époque, c'était un pays en plein essor.
Puis ils voulaient prendre la place.
Voilà. Donc, vers le sud, la Floride, qui était encore un pays espagnol à ce moment. Vers l'ouest, qui était encore un territoire autochtone. Et qui, en effet, pendant quelques décennies, à partir de la guerre révolutionnaire, il y avait des conflits entre les Américains et des Premières Nations.
Oui.
Et les Britanniques ont donné un certain appui à ces autochtones. Alors, en effet, on a ces deux grandes sortes de causes. Une territoriale sur le continent nord-américain et deuxièmement, ces causes plus internationales sur le commerce et la marine, etc.
Donc, le Canada, son seul rôle à ce moment-là, c'est de vouloir garder son territoire et de se défendre.
Effectivement.
Wow.
Donc, il semble que, en suivant les ouvrages qui étaient publiés récemment, que la stratégie américaine était de capturer le Haut-Canada, ça veut dire l'Ontario actuel.
C'est ça.
Et qu'effectivement, avec le Haut-Canada en prise, c'est un pion pour forcer les Britanniques à s'accorder sur ces autres questions territoriales internationales.
Ouais.
Donc, si on entend que les Américains voulaient annexer le Canada en tout, c'est un peu ridicule, comme Robert Comeau a signalé dans Le Devoir récemment, que effectivement, ce n'est pas l'objectif principal des Américains.
Ce n'est pas annexer le Canada nécessairement.
Non, pas du tout. Non. Mais c'est sûr que s'ils ont capturé le Canada, ils vont demander une portion de cette terre, peut-être des autres avantages. C'est très clair que les Américains ne voulaient pas surtout s'occuper de les affaires des francophones dans le Bas-Canada. Et la région atlantique, qui est très proche aux Britanniques et qui encore est plus loin de leur décision.
Est-ce que parce que leur visée, c'était le Haut-Canada, que l'implication de la région des Maritimes a été minime dans ce conflit-là?
Je pense, mais effectivement, le Haut-Canada et l'Ouest ou le Mi-Ouest, en gros, représentent une sorte de borderland, une frontière encore contestée entre des colons britanniques, américains et les autochtones qui, bien sûr, ont continué d'essayer de garder leur souveraineté. Alors, c'est peut-être la région la plus propice pour une invasion. Et c'est aussi très grand, c'est très dispersé la population là en comparaison avec Québec et Montréal, très fortifié, appuyé par la Marine royale encore. Même chose avec Halifax et ce coin-là. Donc, c'est moins évident une opération militaire dans cette direction au début.
Ceux qui ne sont pas historiens ignorent probablement les détails. Comment le Canada a réussi à garder son territoire? Qu'est-ce qui a été déterminant dans ce conflit-là?
Mm-hmm. Peut-être le public connaît cette légende de la milice canadienne. En effet, les miliciens ont porté armes pour se défendre contre les ravageurs américains.
Ouais.
C'est sûr qu'il y avait une contribution des miliciens.
Mais ça, c'est la version romancée.
Voilà. Donc, on a des miliciens, mais on a aussi des soldats de métier, des troupes professionnelles des Britanniques. On a des Autochtones alliés très importants. Il y avait des Autochtones sur les deux côtés. Souvent, on ignore ça aussi. Mais la plupart des nations ont joint le côté britannique. Il faut souligner aussi que la marine royale était encore plus puissante que la marine américaine. Donc, vers 1813, un an après le début de la guerre, les Britanniques ont effectivement mis blocus sur le côte, le littoral nord-est des États-Unis, avec des conséquences graves sur leur économie, sur le commerce. Donc, il y a plusieurs aspects, mais en deux mots, on peut dire que les Canadiens ou les Britanniques, cette équipe de soldats et guerrières, ont mutualisé le terrain, le territoire. Ils ont ralenti et repoussé lorsqu'ils pourraient l'avance des forces américaines. Et que plus tard, et surtout après Napoléon a abdiqué en 1813, que l'arrivée des troupes chevronnées de Wellington a beaucoup changé la guerre. Donc, c'est là où on parle des attaques sur Washington, Baltimore et plus tard Nouvelle-Orléans.
Qui ont été des conflits déterminants
absolument.
Dans la guerre.
Donc, je résumerai en dire qu'il y avait deux phases. La première, où c'est une guerre de défense en Haut-Canada, vers Montréal aussi, une guerre de territoire, des difficultés d'approvisionnement, etc., provisions. Et une deuxième phase où la force des Britanniques ont essayé de punir les Américains, mais les Américains étaient capables de repousser ces expéditions. Donc, une grande guerre de défense où, à la fin, comme Alan Taylor et les autres ouvrages récents ont souligné, ça devenait une sorte d'impasse.
Oui, et donc, quand c'est un impasse, à un moment donné, on fait comme bon, ben, le statu quo.
Effectivement.
C'est un peu ça.
Mais il faut souligner que même si les Américains n'ont pas gagné la guerre au sens qu'ils n'ont pas capturé l'autre Canada, ils ont gagné des avantages chez les Britanniques.
Est-ce que ça leur a donné aussi du crédit politique? Je veux qu'on parle de tous ces avantages-là, mais pour les Américains, ça devait être, il devait avoir une question de crédit politique, de légitimité de nation à quelque part là-dedans.
Ça, c'est une possibilité. Et Taylor encore souligne les aspects civils de cette guerre, que c'était en effet une guerre civile qui continue la guerre révolutionnaire. Entre Britanniques, Britanniques, Américains, Américains, Irlandais, Irlandais, etc.
Oui.
Alors, c'est sûr qu'ils ont utilisé la guerre pour renforcer leur essor comme vrai État légitime sur le plan mondial.
Oui.
Mais les avantages importants comme la Floride achetée de l'Espagne quelques ans plus tard, l'expansion sans opposition vers l'Ouest, mais le commerce plus libre, pas totalement libre, mais le commerce transatlantique assez libre. La fin de la conscription des marins.
Ouais.
Donc, en gros, les Américains ont gagné des avantages, sinon pas toute la question, sur les causes principales au début.
Comment ça a façonné le Canada? Comment ça a changé notre identité canadienne?
Ça, c'est, je pense que c'est plus difficile à dire, parce qu'on n'a pas... L'histoire n'est pas un récit des faits.
Ouais,
on a des interprétations.
C'est des interprétations,
et on n'a que des traces, comme des correspondances, des rapports, etc.
Mm-hmm.
Et on essaie d'imposer une interprétation sur le tout. Donc, OK, on a quelques traces. Et c'est assez clair que cela a contribué à la cohésion entre les colonies de l'Amérique du Nord britannique. Ça veut dire Haut-Canada, Basse-Canada, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, OK. Mais est-ce que cela favorisait la création du Canada 5 ans plus tard? C'était une étape, mais ce n'est pas nécessairement l'étape la plus importante ou l'étape la plus évidente.
Ah oui.
Pour le moment, ce n'était clair que l'autre Canada reste sur le trône britannique et que la colonisation dans ce borderland va continuer.
Pourquoi on va le célébrer à ce point-là, dans ce cas-là?
Ça, c'est... je pense qu'il y a plusieurs aspects encore. Mais c'était un événement important.
Oui, sans aucun doute.
C'est clair. Mais de quelle façon, et cela dépend encore sur votre interprétation. On existe dans un contexte où, c'est très transparent, notre gouvernement veut célébrer certains aspects de l'identité canadienne. Et ça comprend le militaire ou l'armée en général.
Ouais.
Et le nationalisme, une identité nationaliste du Canada, une vision qui englobe le tout.
Ouais.
Et donc, c'est possible de voir dans la guerre de 1812 une guerre de défense où le Canada a valorisé sa position. Moi, je soulignerais en base que c'était une guerre. Si c'était une guerre de la folie, comme Jeffrey Simpson a dit, si c'était une guerre de survivance, comme Champion a dit autrefois, c'était une guerre,
oui.
Et une guerre avec des conséquences terribles.
Oui.
C'est brutal, c'est clair. On parle des, par exemple, des tactiques de terreur employées par les deux côtés. C'est pas le territoire d'une sur l'autre.
C'est ça, on n'est pas blanc comme
les gens. Non.
On n'est pas nécessairement les nice guys là-dedans.
Non,
là.
Pas du tout. Et cette guerre était caractérisée par des petites attaques, des représailles, des batailles. Cinglantes parfois, mm-hmm. comme Châteauguay ou Lundy's Lane, où plusieurs gens sont morts ou blessés. Donc, c'était une guerre. Et si on veut commémorer quelque chose, je pense qu'il faut éviter de célébrer la guerre comme telle.
Ça, c'est bien.
Parce que c'est comme le jour des anciens combattants. On ne célèbre pas la guerre comme telle. On n'a pas des guerres juste des guerres glorieuses. Il faut éviter ça. On a des guerres et guerre est toujours une décision politique, la continuance de politique par autre moyen, comme Clausewitz nous a dit. Et c'était une décision faite à la moment, au moment de poursuivre certains objectifs. Et les conséquences pour les gens ordinaires, pour les soldats, pour les familles qui ont perdu leur ferme ou leur maison, étaient très considérables. Donc, si on veut commémorer, si on veut se souvenir les conséquences de la guerre et que le Canada avait une histoire de guerre, ça, c'est important, selon moi. Mais je ne veux pas qu'on célèbre la violence ou un culte de gloire qui ne mène qu'à un militarisme qui n'est pas pertinent ou qui n'est pas utile, selon moi, dans notre monde actuel.
Wow, c'est tellement bien dit. Ça résume la pensée de plusieurs personnes, ça, j'en suis convaincu. Donc, on va le commémorer comme on devrait, sans nécessairement le souligner, l'an prochain, le bicentenaire de la guerre de 1812. Grégory Kennedy, historien, professeur à l'Université de Moncton, merci beaucoup pour toutes ces précisions-là. Vraiment très intéressant.
Merci.